enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, je traiterai la quatrième partie de la série de messages intitulée « La marche du chrétien ». Mon sous-thème ce matin sera « Progresser ». Au reste, dira l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, « Frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Nous vous prions et nous vous conjurons, c'est fort, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Abraham, le père des croyants, entend la voix de l'Éternel qui lui dit et l'invite à quitter Ur en Chaldée pour aller jusqu'à Canaan. Nous avons vu ensemble dans le premier message que c'est par grâce qu'il fut appelé, puisqu'il n'était pas meilleur que tous ceux qui habitaient avec lui dans ce pays. Il était tout aussi idolâtre, vous le retrouverez dans le livre de Josué. Non, il n'était pas meilleur, mais Dieu dans sa grâce va l'appeler comme chacun d'entre nous. Étions-nous meilleurs que les autres? Qu'avons-nous mérité de plus pour avoir le droit et la grâce d'entendre sa voix, pouvoir lui dire oui et le suivre? Rien, si ce n'est que lui, dès avant la fondation du monde, déjà te connaissait. C'est un mystère qui nous dépasse, mais une réalité. Puis nous avons vu qu'Abraham dut quitter, se séparer. Il n'y avait pas de compromission possible. Et puis notre troisième message fut la foi qui l'anima. Cette foi qui ne visait qu'une chose, non pas son bien-être, cette foi qui n'avait qu'un but, c'était de plaire à celui qu'il avait appelé. Et nous avons vu la différence entre foi et foi. Aujourd'hui, des hommes, des femmes manifestent la foi, mais leur foi est une foi intéressée, c'est-à-dire qu'ils ont une foi qu'ils cherchent à développer pour obtenir le miraculeux. La foi, ce n'est pas cela. La foi, c'est cette confiance que nous avons en Dieu qui est telle que toute notre vie, toutes les décisions, les actions que nous allons faire, eh bien, vont être faites en fonction non pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous ne voyons pas encore, le ciel. Il est dit de Moïse qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait en vue des choses meilleures et ne chercha donc pas son intérêt propre premièrement, mais il chercha qu'une chose, plaire à Dieu. Et aujourd'hui, dans cette quatrième partie, j'aimerais vous inviter à progresser parce qu'Abraham progressera dans sa marche. Il quitte Ur en Chaldée et il progresse vers Canaan. Nous lisons et nous nous rendons compte qu'à un moment donné, avec Térakh, son père, il y a une pause à Charan. Charan signifie « petits fruits », fruits qui ne sont pas arrivés à maturité. Dans sa progression, Abraham va s'arrêter. Charan, à Charan, son père, Térakh aussi. Mais le malheur, c'est que Térakh ne va plus jamais quitter Charan. Il va rester à Charan. Il va mourir à Charan. Il ne verra jamais Canaan de ses yeux. Il me semble que beaucoup de croyants sont un peu comme Térakh. Ils ont reçu le Christ. Ils ont fait quelques pas, mais voilà qu'ils se sont arrêtés. Ils se contentent d'être là où il y a de petits fruits. Ils se contentent de ce qui n'est pas arrivé à maturité. Ils sont à Charan, et certains meurent à Charan sans jamais voir Canaan. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous sommes appelés à progresser d'Ur en Chaldée jusqu'à Canaan. Ton objectif, c'est Canaan et c'est pas Charan. Tu n'es pas appelé à t'arrêter à Charan. Dieu veut que ta vie soit une vie fructueuse, dans laquelle sa gloire et sa présence se manifestent parfaitement. L'apôtre Paul dira, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme à l'image du Seigneur. Nous sommes changés, transformés de gloire en gloire. Nous ne pouvons pas, et je ne peux pas, m'arrêter à ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas me satisfaire de ce que je suis aujourd'hui. Je suis appelé à progresser. Et Paul dira, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Quel égard ? Vous conduire et plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Ils partirent dans Genèse 12, verset 5, pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. L'essentiel, ce n'est pas le départ seulement. C'est l'arrivée. Ils partirent et ils arrivèrent. Mon frère, ma sœur, combien de chrétiens immatures ! Ils sont partis, mais ils se sont arrêtés et ils sont immatures. On voit un peu de Christ en eux, mais on ne voit pas Christ en eux. On voit encore un mélange de la chair, un mélange de la terre. Christ nous invite à lui ressembler. Si vous prenez la définition de progrès, eh bien, dans un premier temps, il est dit « avance d'une troupe sur le terrain au cours d'une opération, d'une campagne ». En temps de guerre, on disait par exemple que l'armée américaine progresse sur le champ de bataille. Elle avance. Ma question ce matin, avances-tu sur, eh bien, le terrain de ton ennemi ? Le fais-tu reculer ? Ou alors êtes-vous comme dans les tranchées de Verdun ? Verdun a été un drame. Parce qu'à Verdun, personne n'a avancé, personne n'a reculé. On s'est simplement détruit sur place. Prends-tu des parts de terrain à ton ennemi dans ce qu'il faisait en toi avant ta conversion et dans ce qu'il fait aujourd'hui ? Voit-on une différence ? As-tu vaincu ? As-tu gagné ? Il y a une deuxième approche qui est celle-là. Le fait d'aller plus avant, de s'accroître, de devenir meilleur. Vous êtes appelé à devenir meilleur. L'apôtre Paul dira, lorsque vous vous assemblez, que ce soit pas pour devenir pire, mais meilleur. Dis à ton frère, tu vas devenir meilleur. Dis à ta sœur à côté de toi, tu vas dire meilleur. Grand-mère Kougloupf, tu vas devenir meilleur. Hast du verstanden, hein? Da wirst besser wahre. Chers internautes, vous êtes appelés à devenir meilleurs. Meilleurs. La notion de progrès s'inscrit dans la nature humaine. Croissance, progression. Un enfant qui vient au monde et qui ne progresse pas est considéré comme malade. On se réjouit pour chaque progrès que fait l'enfant. Je vois ma petite Jade maintenant. Elle a 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Mais qu'est-ce que je suis fier en tant que grand-père quand elle tient la tête droite. Et ça fait déjà 3 semaines qu'elle... Alors c'est rigolo parce qu'on dirait qu'elle est montée sur ressort. Puis, et alors vous la tenez et vous êtes fier. Mais quel progrès ma chérie, tu tiens ta tête droite et vous la tenez tout près de vous. Et la tête... Et tu la tiens droite et tout d'un coup, boum, elle tombe sur le nez. Oh, oh. Mais je me rends compte qu'elle fait des progrès. Et puis un jour, j'étais chez Svetlana l'autre jour, elle me dit, regarde comme notre petite Déborah, elle progresse, elle se met déjà debout à 8 mois. Et quand on la prend par les mains, elle commence à marcher. Les parents se réjouissent parce que l'enfant progresse. Et puis un jour, on se réjouit parce qu'ils vont au pot. Chez nous, assure le pot. Excusez-moi, pas de pot. Moi, c'était toujours une joie le jour où il n'y avait plus besoin de... Ils vont sur le pot. Et la maman, le premier jour, il fait caca, elle crie dans toute la maison. Il a fait caca sur le pot, il a fait... C'est un progrès. C'est un progrès. Qu'est-ce que vous diriez si papa Jean ferait encore dans la couche ? Hein ? Est-ce que vous trouveriez ça normal? Mais non! Il y a donc progrès. Ce sont des progrès naturels. Ils se mettent à parler. Le premier mot qu'ils disent en général, et presque toujours, c'est « Papa ». C'est leur mot préféré, « Papa ». Pourquoi certains font comme ça? Papa, maman, manger. Et un autre mot, je veux. Ça fait partie des premiers. Je veux. Oui et non. Alors ça oui. Alors ça oui. Avant de savoir dire oui, ils disent non. Non. Ça c'est inscrit dans la nature humaine. Non. On se réjouit moins quand ils apprennent à dire ça. Mais ils progressent. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que tous ces progrès-là, ils les font finalement naturellement sans en avoir conscience. Parce que va venir une deuxième étape dans laquelle l'enfant va connaître une progression qui, elle, n'est pas naturelle et inconsciente. Moi, je me souviens plus avoir fait des efforts pour apprendre à marcher. Je me souviens plus avoir fait des efforts et de grands apprentissages pour dire papa, caca et compagnie. Je me souviens plus de ce genre de choses. Mais je me souviens d'une époque où il a fallu que je fasse des efforts. Et ça, c'était une autre facette. Une deuxième, dans laquelle progression est intimement liée à travail et labeur. Quand je suis allé à l'école, j'ai appris que pour progresser, il fallait travailler. Et là, c'était moins évident. En plus de ça, le travail, on l'évaluait avec ce qu'on appelle un bulletin. Misère noire, ces bulletins. Et on ramenait le bulletin à la maison. Et là, les parents lisaient d'abord les remarques. Et en fonction du bulletin, on était ou félicité. Mais dans les deux cas, la main intervenait. Vous avez tous connu ça. C'est cette période où nous apprenons que progrès et effort vont de pair. Et il en sera ainsi toute votre vie. Toute votre vie. Vous allez constamment devoir apprendre, vous remettre en question, progresser. Vous qui êtes dans une vie professionnelle, vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez appris il y a des années. Il faut tout le temps une remise à niveau. Lorsque vous vous mariez, pour le mari, il vaut mieux que la jeune femme progresse en cuisine. Ça, c'est dans l'intérêt de tous les jeunes hommes qui sont là. Au début, elle cuisine simple. Ça consiste à ouvrir une boîte, à la verser dans une casserole, et là, elle arrive encore à vous la brûler. Il vaut mieux que le jeune homme se mette à progresser rapidement en bricolage, n'est-ce pas? Parce que là, c'est la même chose. Je dois dire que mes progrès en bricolage sont évidents. Dominique, non? Ah. Mais bon, je trouve parfois des parades. Vous savez, quand le tableau n'est pas droit et qu'elle me le fait remarquer, je dis, mais attends, c'est ça ce qui est artistique. Quand tout est droit, angle droit, il n'y a rien d'intéressant, mais quand c'est un peu tordu, regarde l'autre là, le Picasso, et plus c'était tordu, mieux c'était. Nous sommes donc tous appelés à progresser. Maintenant, je le disais, pour progresser, que faut-il faire? Et c'est mon premier point, prendre conscience de la nécessité de progresser. Prendre conscience, vous ne progressez pas quand vous n'avez pas conscience qu'il vous faut progresser. Il y a un état des lieux à faire. Le progrès n'a lieu que chez des hommes et des femmes qui ont conscience qu'ils doivent aller plus loin. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Ça, c'est beau, hein? Comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand il dit travailler à votre salut, il ne veut pas dire par cela qu'il vous faut rajouter des œuvres pour être sauvé. Non, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jésus, sur la croix, dira « Tout est accompli ». Mais lorsque l'apôtre Paul nous invite à travailler à notre salut, il est en train de nous dire « Travaillez à ce que vous êtes pour que vous deveniez de plus en plus semblable à celui qui vous a sauvé. Que le salut se voit dans votre vie. Que l'on voit que vous êtes un homme, une femme qui a été sauvée. Ça se voit. Donc travaillez à votre salut. Il n'y a pas de progrès sans travail. » Le problème, c'est que pour certains, le mot « travail » en soi, c'est déjà un gros mot. Et ça, ça se traduit chez eux dans tous les domaines de leur vie. Travail, frère, c'est le jour du Seigneur, le jour du repos. Et vous parlez de travail ce matin. Travailler est un gros mot pour certains. Mais sans travail, pas de progression. Regardez les virtuoses en musique. Vous croyez qu'ils deviennent ce qu'ils sont en ne faisant rien? Ils travaillent 6 heures, 8 heures, 10 heures leur instrument chaque jour. Chaque jour, ils vont reprendre la même partition chaque jour. D'ailleurs, les voisins qui habitent au-dessus ou en dessous parfois deviennent eux nerveux. Ils travaillent, même lorsqu'ils ont des facilités. Vous reposez sur vos seules facilités. Est un danger. Parce qu'automatiquement, vous allez vous arrêter à Charan. À partir du moment où tu veux progresser, il faut que tu comprennes qu'il y a des efforts. Et aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, bien des gens, ne conçoivent plus qu'il faille faire des efforts. Frère, mais nous sommes charismatiques. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire toute chose en nous. C'est peut-être l'une des grandes erreurs des charismatiques et des pentecôtistes et de tous les istes que vous voulez, dont je fais partie et dont je suis heureux de servir le Seigneur. C'est le sentiment de penser que les choses vont venir seules. Le sentiment de penser que tout va venir par miracle. Le sentiment de penser qu'ils vont avancer uniquement par la grâce. Il y a la grâce d'un côté et il y a ta participation de l'autre. Dieu fera la part que tu ne peux faire, mais la tienne, il la fera jamais. Dieu va appeler Abraham, mais faire le voyage, c'est Abraham qui va le faire. Marcher chaque jour, dresser la tente, la démonter, la redresser, c'est Abraham qui va le faire. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas nous réfugier derrière le prétexte que le Saint-Esprit habite en nous pour ne pas faire d'efforts. Nous devons faire des efforts, travailler à votre salut avec crainte et tremblement afin de devenir meilleur. Travailler. Bien sûr, je sais que Paul a dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais parallèlement à cela, il nous invite à travailler. Il nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la patience, etc. » Faites tous vos efforts. Tout au long de la parole, nous découvrons cela. La transformation ne se fait pas automatiquement, simplement en venant le dimanche matin, en m'asseyant. Elle demande un travail régulier, journalier. Une discipline régulière, journalière. Pourrais-je vous demander ce matin si vous deviez faire un bilan où vous en êtes? Êtes-vous plus engagé aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu que vous ne l'étiez il y a 10 ans? Certains me disent, ah frère, je suis converti depuis 20 ans. Ça ne veut rien dire pour moi du tout. Rien. Parce que si en 20 ans tu n'as pas changé, ton drame est encore plus grand que celui qui vient d'arriver. Ne me dites pas, ça fait 20 ans que je suis converti. Si ça fait 20 ans que tu es transformé, alors là c'est merveilleux. Si ça fait 20 ans que tu travailles à ton salut, si l'homme qu'on rencontre aujourd'hui est méconnaissable, non pas parce que tu as vieilli et que tu as perdu les dents, mais parce qu'en toi, maintenant, les gens peuvent voir Jésus-Christ, alors là, c'est extraordinaire. Mais si tu me dis, ça fait 20 ans que tu es converti, mais 20 ans que tu es le même, ça pose problème. Je me suis posé quelques questions. Quand j'ai rencontré le Seigneur, et aujourd'hui suis-je devenu meilleur? Est-ce que je suis plus près de Jésus aujourd'hui? Je pose quelques questions. Ai-je progressé dans la foi? Ma vie le glorifie-t-elle davantage qu'hier? Sa parole est-elle plus profondément inscrite en moi? Ma vie de prière a-t-elle progressé? La sainteté a-t-elle augmenté? Le Saint-Esprit peut-il se réjouir en moi? Ma communion avec les autres s'est-elle approfondie? Ma famille voit-elle ma progression? Ma femme, mon mari, mes enfants sont-ils touchés par mon changement? Mes voisins, mes amis, mes collègues de travail en ressentent-ils le bienfait? Ma charité, ma compassion, ma miséricorde a-t-elle augmenté à l'égard de mon prochain? Les dons de l'Esprit abondent-ils en moi plus qu'auparavant? Le fruit de l'Esprit est-il évident en moi? Est-ce que j'aime Jésus aujourd'hui plus qu'hier? Dieu est-il fier de m'appeler son enfant? Il a dit d'Abraham que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé son Dieu. Est-ce que Dieu a honte d'être appelé mon Dieu ou est-ce que Dieu est fier d'être appelé mon Dieu? Ai-je progressé dans ma vie de disciple? Suis-je aujourd'hui un élément solide dans l'Église? Ou suis-je encore au bout de 20 ans à chercher ma voie? Je cherche ma voie. Mon frère, ma sœur, toutes ces questions sont là pour nous interpeller, pour nous aider à faire le bilan et à travailler pour progresser. Pour progresser, voyez-vous, non seulement il faut travailler, mais il faut apprendre. Apprendre. Il y a un exercice à faire dans lequel je vais apprendre. Les circonstances de la vie me font apprendre, mais la parole de Dieu m'enseigne aussi et j'apprends de la parole de Dieu. Amen. Saviez-vous que la vie avec Jésus est un apprentissage? Vous êtes tous des apprentis. Je suis un apprenti. Le frère à côté de vous est un apprenti de Jésus-Christ. En d'autres mots, si je devais moderniser un peu ce terme, c'est un élève de Jésus-Christ. Il apprend de lui, il écoute son Seigneur. Il apprend de lui, il reçoit, il inscrit en lui ce qu'il apprend. Apprendre. Jésus dira, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Voyez, le fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit n'élimine pas le fait qu'il faut leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. À quelque part, Jésus dit, apprenez-leur à observer afin qu'ils progressent, afin qu'ils aillent de l'avant, afin qu'ils grandissent. Oui, le Saint-Esprit nous enseignera, je le sais. Mais il y a également tout ce que le Saint-Esprit a déjà dit, qui est écrit dans cette parole, et dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la lire, nous avons besoin de l'écouter, et nous avons besoin de la pratiquer. Si vous n'apprenez pas, ne soyez pas surpris que rien ne se passe. Apprendre exige du temps. Prendre du temps. Vous apprenez pas sans prendre du temps. Si vous n'investissez pas dans votre apprentissage, vous n'avancerez jamais. Ça prend du temps. Ça prend du temps. L'école exige de nous des années. Combien d'années a exigé l'école de vous? Moi, ça a exigé des années et je suis pas tout à fait fini avec ça. Des années. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, première, 0. Moi, je suis pas arrivé à ralentir la chute. Des années. Et certains ont fait plus. Après le bac, moi, j'en ai eu deux des bacs. Un à rincer la vaisselle et un à laver la vaisselle. C'était le jour de mon mariage. Et plus tard, on a eu un bac à sable. Mais certains parmi nous sont des bacheliers. Bac S, bac ES. Et puis ensuite, ils continuent. Ils continuent. Parfois, je me penche sur les notes de mon fils et je lis au bout d'une ligne. Je dois prendre un décodeur de toute manière, mais au bout d'une ligne, j'ai mal à la tête. Au bout d'une ligne. Il prend du temps. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Un peu plus loin, dans ce quatrième chapitre, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, pour que tes progrès soient évidents pour tous. » Hey, il faut qu'il y ait des progrès. Il faut que ça se voie. Mais ne me regardez pas fâché comme ça, c'est pas de ma faute. Mais il faut que ça se voie. Blanche, avec tes 82 ans, tu dois encore progresser. Et moi avec mes... Oh yeah, même plus que je sais combien j'en ai, je dois encore progresser. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, Isabelle, est-ce que c'est évident pour ceux qui t'entourent? Là, il y en a qui transpirent, j'en vois plein qui descendent, ils vont se laver les... Tout d'un coup c'est drôle, on n'a plus que la moitié de l'auditoire dans ces moments-là. Oups. Joël, est-ce que tes progrès sont évidents pour tous? Faut demander ta femme. Non, alors ça, je m'y risque pas, parce que c'est dangereux. Mes amis, nous pouvons pas simplement être contents. Je suis sauvé, je suis baptisé, c'est terminé. Je viens le mardi, je viens le dimanche, basta. Non! Il faut que l'on puisse voir. Il s'investit. Il encourage Timothée à prendre du temps pour lire et s'instruire. Lire. Timothée n'avait pas le canon biblique comme nous aujourd'hui. Il avait les épîtres. Il lisait les lettres qui lui étaient adressées. Il avait par contre les prophètes. Il avait le Pentateuque. Il avait tout ça. Les 5 premiers livres de Moïse, il les avait. Et puis, Paul va lui dire, mais lis, applique-toi à cela. Et ensuite, enseigne-le aux autres. Vas-y, progresse. Vous avez vu que Paul dit, eh bien, nous allons faire, cher Timothée, une séance d'apprentissage. Approche-toi. Seigneur, aujourd'hui, je te prie d'imprimer en lui la Genèse. Qu'il connaisse la Genèse par cœur. Amen. Et demain, tu reviens. Seigneur, aujourd'hui, l'Exode. Vous croyez que c'est comme ça? Ta Bible, si tu la lis pas, tu la connaîtras pas. Et si tu prends pas du temps, ne t'étonne pas que tu ne progresses pas. Ne t'étonne pas. Les gens sont là, frère, vous savez, je trouve que les enseignements sont légers, je ne progresse pas. Moi, je vais te dire ce qui est léger. Yeah. T'en donner des enseignements légers. On prie pas. Attendez, vous avez vu ce qui est marqué à l'entrée? Il n'y a pas McDo, hein? Il y a porte ouverte? C'est pas le fast-food? On vient vite se remplir le ventre et 2 heures après, on a de nouveau faim. Il faut que moi, nous apprenions à nous nourrir à la source. Certains me disent, Samuel, prie pour moi. Prie, j'ai tel problème, prie pour moi. D'accord, combien de temps tu as prié toi-même pour ton problème? Ah, je ne veux pas prier, c'est ton boulot ça. Mais alors? Mais moi je refuse de prier quand c'est comme ça. Je dis, mais attends. T'as qu'à commencer toi à prier pour ton problème. Et quand une fois t'auras vraiment prié, là tu viens me voir si ça va pas. Mais entre temps t'as pas besoin de venir parce que je sais que le Seigneur t'entend. Hello! Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait les Suisses? Moïse dit à Josué, médite la jour et nuit, médite, rumine la parole jour et nuit. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Je suis parfois étonné de voir les gens, mais ne même pas connaître leur Bible. Par contre, ils lisent religieusement leur journal tous les matins pendant des heures. Les retraités. Ah oui, on a du temps pour... À ce que l'Alsace dit, alors là, ça on le sait. Que le Racing Strasbourg a perdu hier soir, on le sait. Comment il a perdu, on le sait aussi. Mais quand vous demandez, t'as lu ta Bible? Yo, j'ai lu le calendrier qui est suspendu aux toilettes où tu vas de toute manière. Et tant qu'à faire, autant pas t'ennuyer. Tu t'étonnes que tu progresses pas. Mais alors, nous déshonorons Dieu par une telle attitude. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si la télévision pouvait parler, si la télévision chez vous à la maison était une personne, vous avez une personne, imaginez, hein, on est dans le monde du virtuel, on peut imaginer beaucoup de choses. Si votre télévision ou votre ordinateur était une personne, moi je suis sûr que la télévision dirait, ah, lui il m'aime, il passe beaucoup de temps avec moi, tous les soirs on est ensemble. À midi, à 13h on est ensemble, à 20h on est ensemble. Et ensuite, il prolonge dans la nuit jusqu'à 23 heures. Et après, plus tard, je lui montre des petits trucs coquins, il est encore là. Mais si la Bible, c'était une personne, chez certains, elle serait asthmatique, couverte de poussière. Elle pourrait dire, je suis négligée, on me sort jamais de mon étui. Même plus le dimanche. Parce que le dimanche, maintenant, ils ont mis les versets sur l'écran. La marche du chrétien exige des efforts, du travail, de la patience. Et puis, pas seulement de la patience. David dira au psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Comment tu veux te diriger d'après sa parole si tu ne la connais pas ? Hein ? Dis-moi, comment veux-tu te diriger ? Un autre élément, apprendre exige de la persévérance. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, persévère. La tentation d'arrêter quand arrivent les difficultés se présente à chacun d'entre nous. Soudain, nous sommes taraudés par toutes sortes de pensées. À quoi ça sert? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Regardez ce que Paul dit, il le dit aux Thessaloniciens. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle est la parole de Dieu. Elle n'est pas simplement un livre. Quand je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Frère Fris, quand ta chérie, elle t'écrivait, est-ce que tu lisais la lettre d'amour comme si elle était présente? Est-ce que c'était pas comme si elle t'avait parlé? Ah ouais? Moi je me souviens quand je lisais les lettres, parfois je les relis. Et je me dis c'est fou ce qu'elle pouvait m'écrire. L'inverse aussi, quand on est amoureux on en dit des choses. Hein? Tu es la plus belle. Pour toi, je déplacerai les montagnes. Et aujourd'hui, quand elle nous appelle, Sam, was wird wieder? C'est drôle. Mais quand elle m'écrivait, je lisais la lettre religieusement. Parce que cette lettre, c'est comme si elle était en face de moi en train de me le dire. C'est comme si elle était là en train de me parler. Quand je lis sa parole, Dieu est présent et me parle. Et quand Dieu me dit quelque chose, alors ce qu'il me dit vaut la peine d'être mis en pratique. Mon frère, ma sœur, persévérez. Dans bien des domaines de nos vies, il nous faut persévérer, sinon il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits. Est-ce que vous avez des légumes dans le jardin sans persévérer? Dites donc, donnez-moi de votre terre, elle m'intéresse, hein? Est-ce que vous avez des légumes dans le jardin sans persévérer? La seule chose que vous n'avez pas besoin d'inviter, c'est les mauvaises herbes. Vous avez remarqué? Moi, j'ai jamais dit aux chardons et aux épines de venir parmi mes tomates. Jamais. J'ai jamais dit, chères orties, venez. Elles se sont invitées sans mon accord. Et j'ai appris une chose. Si je veux du fruit, il faut que je travaille. Il faut que j'arrache. Et quand j'ai arraché, il faut que je recommence, parce que ça repousse ces saletés. Ça s'arrête pas. Il n'y en a pas un ici qui a un jardin qui ne sache que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Jésus parle de quatre terrains. Il parle d'un semeur. Le problème ce matin, c'est pas la semence. Le problème, c'est le terrain. Et c'est le terrain qu'il faut travailler pour progresser. Et c'est le terrain qu'il faut débarrasser de ses épines pour progresser. Et ne t'imagine pas que tu t'es une fois pour toutes débarrassé des épines. Il y en aura encore qui reviendront. L'autre jour, je me suis battu avec des orties. Alors d'abord, je voulais faire un acte de foi et les maudire comme Jésus le figuier. Mais ça n'a pas marché. Race d'orties, je vous maudis. Elles sont restées vertes, elles me regardaient dans les yeux, effrontées. Donc j'ai dû prendre ma pioche, ma pelle. Et puis j'ai dû commencer à creuser. Et vous savez ce que j'ai découvert? C'est qu'elles ont des ramifications. Moi je savais pas. Moi je croyais que les orties c'est comme une pomme de terre. Tu la sors, c'est fini. Mais non, cette saleté a des ramifications. T'en tires une, t'as les autres qui commencent à bouger. Eh bien j'ai réalisé dans mon cœur, c'est souvent la même chose. Et ça demande un travail de sanctification, une lutte. Chaque jour où je refuse que vienne le péché, que vienne l'orgueil, que vienne la fierté, que viennent toutes ces choses qui me privent de sa présence. Apprendre exige également de la patience. Vous récoltez pas tout de suite le fruit de ce que vous avez appris. Surtout que quand on apprend, parfois on se dit, pourquoi est-ce que j'apprends ce genre de truc? Moi, je me souviens à l'école, quand je faisais de la grammaire. La grammaire. Et je me disais, mais pourquoi les verbes réguliers, irréguliers, pourquoi ils sont pas réguliers comme les autres, ceux-là? Il y a des irréguliers partout, même chez les verbes. Et j'essayais de conjuguer. Je me disais, mais ça sert à quoi de se triturer l'esprit? Et aujourd'hui, je suis d'autant plus démoralisé que je reçois des SMS. Tu fais quoi? Q-O-A. Tu fais quoi? Je me suis cassé la tête des années pour apprendre l'orthographe. Et maintenant, tu fais quoi? Ça va bien. B-I et un 1 derrière. Et ma mère qui me disait toujours en alsacien, Retten wir den Schnabel gewachsen. Et là, j'arrive à l'école et puis on m'apprend à parler autrement. Et je me disais, à quoi ça sert? À l'époque, je savais pas. Aujourd'hui, je sais. Et aujourd'hui, j'en récolte des fruits. Il faut de la patience. Il faut de la patience à l'étudiant derrière son bureau pendant des heures seul, alors que ses copains, ses collègues s'amusent. Il lui faut de la patience, de la persévérance. Vous croyez pas qu'il a envie de lâcher les cours sur lesquels il planche? Les autres bénéficient déjà du fruit de leur travail, ont fait des études parfois plus courtes, et puis ils gagnent déjà de l'argent, ils s'amusent, et lui, il est toujours encore là en train de plancher. Mais le jour vient où il récoltera le fruit de son travail, s'il persévère patiemment. Mon frère, ma sœur, persévère patiemment, et Christ se verra en toi de manière évidente. Permettez-moi d'arriver à mon dernier point. Faire un bilan, travailler, apprendre, avec tout ce que cela sous-entend, ne servirait à rien si nous ne le mettions en pratique en finalité. Vous avez beau tout connaître dans votre tête, et vous pouvez connaître la Bible par cœur. C'est un jour trois hommes qui parlent ensemble. Et le premier dit, la traduction qui me convient le mieux, c'est celle de Louis II. Et l'autre dit, non, moi c'est celle du chanoine crampon, je peux me cramponner. Puis le troisième dit, ah non, moi c'est celle de ma mère. Elle dit, mais sa mère, elle a traduit la Bible? Il dit, non, mais chaque jour elle la vit de manière à ce que je puisse la voir devant moi. Voir. Pratiquer. Mesdames, vous qui êtes ici, vous pouvez me réciter toutes les recettes du monde. C'est dans l'assiette que je vous jugerai. Vous pouvez me parler du coulis de framboise. Vous pouvez me parler de la dinde farcie. Vous pouvez me faire des discours. C'est l'assiette qui sera le seul moyen de vous évaluer. C'est journellement, c'est dans ton vécu, c'est dans ton attitude, c'est dans ta capacité de prendre du temps avec Dieu, c'est dans ta relation avec les autres, c'est dans l'intérêt que tu donnes à Christ dans ta vie qu'on te jugera. Le reste, c'est du discours. Vous pouvez connaître la Bible par cœur et être perdu. Certains la connaissent parfaitement, mais jamais ne l'ont mise en pratique. Ce matin, l'apôtre Paul nous encourage à deux choses, la sanctification et l'amour. Je ne vais pas développer ces deux points, je ne vais juste que lire la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Écoutez bien, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, et là c'est pas une option, frère, sœur, ce que Dieu veut. Regarde ton voisin et dis-lui ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Certains me disent, frère, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Alors ce matin, je vais t'en parler. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, il le veut. Ça, il faut que tu y travailles. Pour y arriver, il faut que tu persévères. Tout ce qui n'est pas saint doit être enlevé. C'est que vous vous absteniez, et alors il développe, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, l'immoralité. L'immoralité envahit les maisons même des croyants. Je ne vais pas m'attarder, mais combien de croyants piégés par Internet. Les images, tu n'as même pas besoin de les appeler, elles viennent toutes seules. Le diable sait aussi comment semer l'ivraie. Il ne se laisse pas inviter, il s'invite lui-même. C'est que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Travaillez. Progresser. Que vos progrès soient évidents pour tous. Celui donc qui rejette ces préceptes, dit Paul, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que c'est beau! Thessaloniciens, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Mais il continue quand même. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Combien de fois dans les églises des tensions et des disputes parce qu'au lieu de s'occuper de ses propres affaires, on va se mêler de celles des autres. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous pourrions passer un message entier sur tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Mais j'insiste ce matin, la sanctification. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. La sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Deuxièmement, l'amour. Parce que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quoi sert-il de dire « j'aime mes frères » quand Ce dernier est dans la détresse, il ne me voit pas. À quoi me sert-il de dire « j'aime mes frères » quand je n'ai même pas la capacité d'ouvrir ma maison, de lui offrir une assiette, de le recevoir, de l'héberger? À quoi ça sert? Il y a une chanteuse qui est partie il y a longtemps maintenant, qui chantait « Parole, 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 parole ». Non, c'est pas un cantique. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parole. Parole. Des discours. On se gave de discours. On se gave de déclarations. Je t'aime, tu m'aimes, nous vous aimons, ils s'aiment. Puis tout le monde finit seul dans son coin, dépressif, à manger des cachetons. Ça, c'est les chrétiens. Hey! Nous avons à nous réveiller. Nous avons à progresser. Béni soit Dieu pour tous ceux qui déjà maintenant travaillent. Je connais des hommes et des femmes parmi nous de qui je peux rendre ce témoignage en disant mais je vous ai vu progresser. Et vous êtes aujourd'hui une grâce, une bénédiction pour l'Église. Mais il y en a peut-être qui stagnent depuis longtemps. Il est temps de se réveiller. Il est temps de changer. Il est temps de travailler. À quoi sert un amour qui ne se manifeste pas? Bien-aimés, ce matin, l'amour doit nous pousser à donner notre vie, à nous donner. Certains me disent, frère, tu sais, aller dans les écoles du dimanche, ça me prend chaque fois mon culte. Ben oui, c'est ça, ça coûte toujours quelque chose d'aimer et d'aider, toujours. Et si tu veux faire des actes qui ne te coûtent rien, ça se termine toujours mal. Toujours. Jésus, par amour, a donné sa vie. Donnons notre vie. Travaillons, progressons. Fermons nos yeux un instant. Pendant mon frère, viens simplement au clavier. Chaque jour, mon frère, ma sœur qui se lève t'invite à progresser. La marche chrétienne est une marche de progression. Progresser s'inscrit naturellement dans la vie humaine. Il y a les progrès inconscients que nous avons cités tout à l'heure, et puis ceux qui nous demandent du travail et des efforts. Paul, à un moment donné, déplore le fait que ceux à qui il s'adresse étaient encore des enfants nourris au lait, qui ne pouvaient pas prendre de nourriture solide parce qu'ils n'avaient pas progressé. Mon frère, ma sœur, je ne désire pas nous nourrir au lait, mais je désire nous nourrir avec la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'elle vous aide et qu'elle m'aide à devenir un homme et une femme qui glorifie son Dieu. Non pas simplement au travers de grandes déclarations, mais au travers de sa vie. Que ce matin, celui, celle qui est là, et qui sait qu'il doit progresser, et qui dit au Seigneur, je stagne depuis longtemps. Si je fais le bilan de ces deux dernières années, rien n'a changé. Voire même, j'ai régressé. Parce que je vois cela aussi, des croyants qui régressent. Au début, ils viennent, ils sont feu et flamme, ils sont comme dans cette période où comme l'enfant, ils grandissent, mais presque naturellement. Et puis tout d'un coup, des choses qu'ils ont délaissées, de la vulgarité qui n'était plus dans leur bouche, parfois même l'apparence qu'ils avaient réformée parce qu'ils reconnaissaient que c'est pas bon, eh bien tout petit à petit revient, ils régressent. On entend à nouveau des mots dans leur bouche qui ne sont pas dignes d'un homme, d'une femme de Dieu, des attitudes qui ne sont pas dignes. Enfin, ma sœur, ce matin, nous sommes là devant le Seigneur. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Je ne vais pas vous imposer les mains pour que vous changiez de caractère. Parce que ce n'est pas une imposition des mains qui changera votre caractère. C'est la parole puissante et permanente de Dieu qui habite en vous, qui produira son fruit dans la mesure où vous prenez le temps de l'écouter, où vous avez la patience d'attendre pour voir son œuvre et où, eh bien, vous persévérez malgré la difficulté. Celle-là, certainement, transformera l'homme, la femme que vous êtes ce matin. C'est cette semence incorruptible, dira l'apôtre Pierre. Nous sommes faits d'une semence corruptible et nous retournerons à la terre d'où nous avons été tirés. Mais la parole permanente et vivante de notre Dieu est une semence incorruptible. Et elle va produire en vous le vouloir et le faire. Et elle va vous donner la joie de devenir un homme, une femme, en qui l'on peut voir Jésus. Père, tu connais le cœur de chacun, de chacune. Tu sais où nous en sommes les uns et les autres. Quand même nous viendrions par Adam avec l'apparence d'une grande spiritualité, ta parole dit que tu te fies pas à l'apparence, tu regardes au cœur. Ce matin, Seigneur, aide-nous à aller de l'avant. Dans ta grâce, viens et encourage les uns et les autres à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Merci pour ton amour. Donne-nous de ne pas nous satisfaire de ce que nous sommes aujourd'hui. Donne-nous de progresser comme une armée sur le terrain de l'ennemi. Mais donne-nous également de devenir meilleurs. Meilleurs. Non pas par nos propres forces, mais par ta parole qui engendre en nous le renouvellement de l'intelligence. Sois béni pour cela. Pourrions-nous nous lever et simplement chanter Dieu très saint, tu es notre Seigneur.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.